Isaac avait la foi à qui était tournée vers les choses qui doivent arriver. Des choses qui nous plongent dans l'éternité des dieux. Et nous voyons qu'il en est de même pour Jacob. Et Jacob qui était mourant. Loin d'être découragé par la mort qui était soudaine. Mais nous voyons ici Jacob en train de poser un geste. Il bénit chacun des fils de Joseph, qui sont ses petits-fils, dans une attitude d'adoration. Et pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on a la foi, on doit toujours rester dans cette attitude d'adoration. Tellement que l'avenir a été une réalité forte pour Jacob, la foi en l'accomplissement du plan éternel de Dieu lui a donné une attitude positive face à la mort. La mort n'a pas effrayé Jacob. Non. Comme ça peut effrayer quelques-uns d'entre nous. Jacob a adoré le Dieu qui lui a donné la possession des choses et des choses qu'il espère pour toujours. Jacob a adoré Dieu. Jacob n'a abandonné son bâton que lorsque, n'étant plus d'usage, il tombe de ses mains à qui était déjà glacé. Et il en fut de même pour Joseph. Joseph mourant, il a dit une parole. Il a fait mention de la sortie des enfants d'Israël en donnant cet ordre au verset 22. Je vais relire. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Jacob a laissé deux choses aux enfants d'Israël. Il avait la foi que les enfants d'Israël seraient au bénéfice de la délivrance des dieux. Alléluia. Esclave en Égypte, mais il voyait déjà la délivrance des enfants d'Israël s'approcher et c'est pour cela qu'il a dit, il fit mention de la sortie des enfants d'Israël. La foi qui nous plonge dans une réalité, visible. Elle t'amène à dire des choses, mais des choses que toi-même tu ne comprends pas. Joseph a dit cela. Et puis pour concrétiser encore sa foi, il s'est dit à que il a donné l'ordre qu'il touche ses ossements, que ses ossements doivent être emportés jusque dans la terre de ses ancêtres. C'est là qu'il veut que ça soit inhumé. Il avait déjà la foi à la résurrection. Parce que vous savez quoi, mes bien-aimés? Quand nous allons mettre en terre une personne qui vient de décéder, parce que nous n'avons pas, nous, la pratique de faire l'incinération de la dépouille, mais c'est parce que nous avons la foi et l'espérance que Dieu est capable de ressusciter les morts. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons poser les corps sous la terre parce que nous croyons à la résurrection. Même si aujourd'hui, on commence à profaner même les temples au bénéfice de l'argent. Joseph a salué, sans l'avoir vu, la délivrance de son peuple. En tant que celui qui croit à la résurrection, il avait ordonné à ce que ses ossements soient transportés sur le sol de ses ancêtres. Et alors, le dénominateur commun qui se dégage ici, c'est que la bénédiction d'Isaac répandue sur d'autres. Isaac qui a béni sa descendance. Ce que mes bien-aimés, en tant que parents, nous devons bénir notre descendance. Il n'est pas question ici de dire des paroles déplacées à sa descendance. Il faut la bénir. Et il faut la bénir par la foi. Que même si je ne suis pas là, mais je sais bien que Dieu va accomplir. Dieu va accomplir son vœu sur chacun et chacune de la descendance. Il a béni sa descendance. Et puis nous voyons aussi Jacob, n'est-ce pas, en train de bénir sa descendance et en train d'adorer Dieu. Nous voyons aussi Joseph qui est en train de parler de l'espérance de la délivrance et de la résurrection. Joseph a confessé à que les enfants d'Israël vont quitter la maison de la servitude pour la liberté, et il a confessé aussi la résurrection. Vous comprendrez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la foi est active et agissante à travers des choses qui sont simples. À travers les choses qui sont simples et non à travers les choses qui sont spectaculaires. Un jour, des gens sont venus vers Jésus, des Juifs sont venus vers Jésus. Ils avaient envie de voir des miracles. Oui, Seigneur, montre-nous des miracles. Et le Seigneur de répondre, il n'y aura qu'un autre miracle qui vous sera donné, que celui de Jonas, qui avait passé combien de jours dans le ventre des poissons, d'une baleine? 3 jours. Il n'y en aura pas d'autre miracle qui vous sera donné. Et le vrai miracle, c'est d'être capable de reconnaître et de confesser à que Jésus est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et c'est simple à s'inscrire dans une logique comme celle-là. La logique de la foi, c'est très simple, mes bien-aimés. C'est de vous inscrire dans ce que Dieu a déjà fait. Il n'est pas question de se compliquer la vie, de croire que voilà, ça sera spectaculaire, tu auras chaud sur la tête, ou bien le cœur va battre à 85 à l'heure, ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est à travers des choses simples. Ceux qui nous ont précédés ont expérimenté des choses simples. Et j'en arrive maintenant à l'expérience de Moïse. Et cette expérience qui est perçue aussi comme une expérience tout à fait particulière. Et ça commence autrement que d'habitude. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était comment? Était beau et ne craignirent pas les dits du roi. Et on peut se poser la question, qu'y a-t-il ici? Est-ce qu'il y a une commune mesure entre la foi et le fait que Moïse soit né? Nous voulons voir d'abord la foi des parents de Moïse. Que c'est une foi énergétique. Et ça libère à une énergie sans pareil. Et cette énergie de la foi est caractérisée, cette énergie de la foi qui caractérise la foi des parents de Moïse, c'est que dès la naissance de cet homme de Dieu, dès la naissance, et donc la foi des parents de Moïse ne se montre que par des actions, et des actions qui ne sont pas éclatantes. Elle se manifeste dans des actions qui sont insignifiantes. C'est juste mettre Moïse dans quoi? Dans un panier, une foi avec des manifestations simples et humbles aux yeux de Dieu. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, à rappeler ici, c'est que les parents de Moïse sont allés à l'encontre de quoi? De l'édit de Pharaon. Parce que Pharaon avait dit que tout enfant mâle devait être exterminé. Mais les parents de Moïse ont résisté contre cet édit-là. Bravo les femmes. Et quand vous vous engagez dans la foi, réellement cette foi-là, elle est une foi qui est simple, mais qui a une énergie très puissante. Alléluia. Et la Bible nous dit, par la foi, Moïse, étant né, fut caché 3 mois durant, par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. L'énergie de la foi des parents de Moïse était subversive. Je venais de le dire que c'était une résistance, un esprit de résistance contre les forces du mal. Ils se sont opposés à l'ordre de Pharaon, qui était un monarque très puissant ici sur la terre à l'époque. Une telle foi, je me posais la question ce matin quand je préparais, est-ce qu'une telle foi peut être reconnue dans les disciples de Jésus-Christ à Goma Ouest? Une foi qui est une résistance contre le mal. Même si ce mal vient de la hiérarchie, une foi contre quelque chose de mauvais. Des fois, notre foi nous expose à vivre une certaine foi d'obéissance exagérée. Obéissance exagérée à des ordres de la hiérarchie, même si la hiérarchie s'est trompée, mais des fois la tendance est de dire oui à tout ce que le chef peut proposer. Mais la foi des parents de Moïse a poussé l'audace plus loin en résistant contre l'édit d'un puissant comme Pharaon. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi que Dieu attend de nous, ses disciples, c'est une foi subversive. Une foi qui peut résister contre le mal. Quand tu vois le mal venir devant toi et tu te dis, ça ne passera pas par moi. Tu résistes contre ça. Venons-en maintenant à la foi de Moïse. Et j'aimerais subdiviser ça à quatre petites parties, mais je ne ferai pas longtemps en expliquant ces quatre petites parties. La foi de Moïse était une foi d'abord, premièrement, qui refuse, comme la foi de ses parents. C'était une foi qui choisit, et une foi qui estime, et enfin, à une foi qui quitte. La foi qui refuse. Dieu a placé à Moïse cette foi, et la foi qui refuse. Dieu a placé aussi Moïse dans une position exceptionnelle. Il avait été considéré comme un fils de la fille de Pharaon. Il pouvait prétendre à tous les honneurs, même au trône, quand son éducation faisait de lui un homme remarquable, un grand homme. Il pouvait aussi en profiter pour devenir le bienfaiteur de ses frères et sœurs israélites en vue d'alléger leurs souffrances. Mais la foi de Moïse l'a poussé à refuser toutes les faveurs qui étaient à la portée de sa main. Il a dit niet par rapport aux faveurs. Il a renoncé à tout cela. Il a renoncé au fait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si c'était nous à cette époque, on allait se dire, on allait se frotter les mains en disant au moins ça, je vais rentrer dans la cour royale. Mais il s'est refusé toutes ses faveurs. Un refus. Le refus, ça peut paraître comme une petite chose aux yeux des hommes, mais c'est grand aux yeux de Dieu. Refuser. Prendre position par rapport. Et notre foi nous amène-t-elle à refuser à ce que le monde nous offre? À cette période où le monde nous offre comme modèle, et pour accéder par exemple à un emploi, ça nous offre un modèle, par exemple faire des coucheries, corrompre. Ah, je ne vais pas vous dire ce qui se passe par exemple dans les partis politiques. Quand vous y êtes, vous allez vous dire, mais je suis où c'est là? Il y a des choses qui se passent là-bas qui vous feront froid dans le dos. Je vais donner juste un petit exemple. Eh bien là, on a la tendance de réduire les uns et les autres à des esclaves. Par exemple, tu as été suppléant d'un député. Et voilà que l'Assemblée nationale, le député est promis pour être ministre. N'est-ce pas que c'est le premier suppléant qui doit les remplacer? Ils ont fait toute la procédure administrative et légale pour que tu accèdes à ce poste de député parce que le titulaire a accédé à un poste de responsabilité plus élevé. Mais vous savez quoi, ce qui se passe dans les partis, c'est que les suppléants qui viennent d'accéder au poste de député national, alors que celui qui était là vient d'accéder à un poste de responsabilité, le salaire que doit recevoir le suppléant, parce que c'est lui le titulaire, doit être divisé par deux. Une moitié doit être versée sur le compte de celui qui lui a laissé la place. Et c'est l'autre moitié maintenant à qui est son dû. Et avec ça, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore la justice ou il n'y a que la pourriture? Voilà les types d'esclavage qui sont en train d'être connus aujourd'hui. Mais ici, Moïse s'avère être la préfiguration même de Jésus qui n'a pas pris comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu pour me sauver et pour te sauver, toi. Mais il s'est dépouillé de toute sa gloire, de toute sa divinité pour devenir, pour prendre la forme d'un esclave. Et il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est dépouiller de tout ce que nous avons comme privilège. Refuser même ce que le monde vous tend comme opportunité. Si tu vois que réellement Dieu n'est pas présent dans cela. La deuxième des choses que je voulais invoquer ici, c'est la foi de Moïse qui est une foi qui choisit. Moïse avait choisi d'être humilié. Moïse avait choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, avec ses frères et sœurs, que de jouir pendant un court moment de tous les délices du péché, nous dit la parole de Dieu. Le peuple d'Israël était dans l'abaissement total, était dans ce qu'on appelle le plus abject de l'esclavagisme. Mais la foi de Moïse ne pouvait choisir autre chose que de s'engager dans la libération de ses frères et sœurs de l'esclavage de l'Égypte. Mais bien aimé, il y a des choix que nous devons faire. J'aime bien quand notre pasteur nous parle des choix que doit faire et les choix de la foi. Et vous savez que la vie n'est constituée que des choix. Parce que quand je vous vois et je vous regarde du haut de la chair et je vous trouve bien habillé, c'est que vous avez choisi l'habit que vous portez pour ce dimanche pour aller rendre gloire au Seigneur. Toute la vie, mes bien-aimés, n'est que problème de choix. Mais il faut que ces choix soient éclairés par la relation d'intimité que tu cultives avec Dieu. Moïse a fait cette expérience. Pour lui, la vie, c'était le choix. Il pouvait choisir ce que les autres ne pouvaient pas choisir. Et il a choisi ce qui était humiliant pour lui. Mais pourvu que par lui ne passe ce qui ridiculise. La foi de Moïse, troisièmement, c'est une foi qui estime. C'est une foi qui estime. La parole de Dieu, au verset 26, nous dit ceci. Il estimait en effet que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Ah, mais s'il faut choisir entre la gloire et l'opprobre, je sais bien que 99,9% de ceux que nous sommes ici choisiraient facilement la gloire. Parce que nous ne sommes pas prêts à être dépouillés de notre gloire. Mais la foi de Moïse est une foi qui estime. Moïse avait pesé, il avait sous-pesé toutes les richesses que lui offrait d'un côté le roi Pharaon et l'opprobre de l'autre côté. Le plateau de l'opprobre avait pesé pour Moïse beaucoup plus que la gloire ou bien les trésors, les richesses que lui offrait l'Égypte. Moïse, la foi de Moïse, comme celle de ses parents, avait trouvé un trésor incomparable. La personne du Christ, même si il n'était pas encore là. Mais déjà, il voyait de loin cette personne du Christ. Combien que rencontrer cette personne, la voir dans sa propre vie, c'est le trésor que nous pouvons avoir et que le Seigneur nous donne. Et voilà ce sur lequel nous devons fonder notre foi. Et alors, vous voyez déjà ici, dans ce texte, Moïse qui parle de Christ, avant que le Christ ne soit là. Il s'est identifié à lui. Alors, l'humiliation qu'il a portée était l'humiliation de Christ. Mais comme Christ s'est humilié, il a assumé jusqu'au bout la condition de l'humiliation. Mais c'est parce que Moïse regardait d'abord à la rémunération. Jésus-Christ qui a assumé la condition de l'humiliation, il voyait ce qui devait arriver, c'est la résurrection. Et qu'il devait retourner dans la vie et la vie dont il s'était dépouillé. Moïse avait un regard sur les trésors à venir que Dieu a mis de côté pour lui. Dieu ne veut pas rester un débiteur de quelqu'un. Lorsque nous nous abandonnons entre ses mains, Dieu est toujours de notre côté. Et que les trésors qui nous réservent dans l'avenir, nous pouvons déjà commencer à les palper ici et maintenant. Et la dernière des choses maintenant que je voudrais parler, ou que je voudrais partager avec vous, c'est que la foi de Moïse était une foi qui quitte. Par la foi, nous dit la parole de Dieu, Moïse quitta l'Égypte et ne craignant pas la colère du Pharaon, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Tenir ferme dans la foi, mes bien-aimés, avoir une foi inébranlable, voilà ce que la figure de Moïse nous invite d'avoir. Moïse est cette figure qui nous rappelle cette marque de la foi qui ne vacille pas devant les obstacles, mais la foi qui voit au-delà des obstacles que Dieu est à l'action. Et c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Malgré ce que les Égyptiens ou bien la civilisation égyptienne lui avait réservé comme opportunité d'épanouissement personnel, il pouvait devenir ceci ou cela, mais il fallait que les enfants d'Israël le rejoignent dans cette foi, et cette foi qui pousse plus loin l'audace, et l'audace de la délivrance. Cette foi qui pousse plus loin l'audace de ne pas mettre beaucoup d'accent sur le délice, sur le confort, mais c'est de mettre l'accent sur la libération de soi-même, de l'esclavage, du péché, la libération aussi d'autres personnes. Moïse ne voyait pas d'abord ce que lui offrait la civilisation égyptienne. C'est vrai qu'elle était puissante du point de vue économique, militaire et du point de vue politique. Parce que même les Israélites, quand ils ont quitté l'Égypte pour retourner dans la terre promise, et à mi-chemin, ils se rappelaient toujours des potages aux poireaux à qui ils ont mangé en Égypte. Il se rappelait toujours de cette eau minéralisée, de cette eau pure qu'il buvait en Égypte et qu'il faisait oublier qu'ils étaient des esclaves. Moïse avait compris une chose, que cela n'était qu'une apparence, que cela n'était qu'une illusion comme nous l'avons chanté, que la vraie vie, ce n'est pas cela, mais la réalité qui nous pousse à mettre notre confiance dans les choses invisibles et les choses visibles auxquelles on accède par la foi. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que pour être disciples, nous sommes appelés à quitter le monde. À quitter le monde. À quitter le monde qui ploie sous une certaine puissance. À quitter le monde parce que le monde nous offre des délices. Nous offre ses beautés, ses richesses, sa science et sa religion. Et vous savez bien que la religion du monde se définit, se résume à trois choses. Le pouvoir, l'argent et le sexe. À travers l'expérience de Moïse, nous voyons bien que nous sommes invités à quitter le monde. Et à toutes ces choses, il faut leur donner une valeur. Il est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le tout dépend de la capacité que tu vas avoir pour donner une juste valeur à ce que je viens d'énumérer, toutes ces richesses du monde, à toutes les sciences du monde, toute la religion du monde. Et comme les parents de Moïse n'avaient pas craint d'opposer une certaine résistance à l'édit de Pharaon, Moïse aussi n'a pas craint la colère du roi non plus. Et pourquoi? Parce que sa foi était tournée vers ce qui est invisible. Et le verset 27 nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et le verset 28, c'est par la foi... Ah non, le verset 27, car il tint ferme comme voyant ce qui est invisible. Il est resté dans la foi à qui est ébranlable, qui est inébranlable, voulais-je dire. Moïse avait vu ce que la foi seule peut voir. Moïse avait vu ce Christ invisible dont il avait choisi l'opprobre. Voilà ce qui nous est demandé de faire comme expérience à travers ce que Moïse a connu comme expérience. Voilà ce que nous pouvons dégager de la vie de foi de Moïse. Et ce qui nous encourage, c'est que Moïse est resté ferme, il a tenu, il est resté inébranlable, et il nous est appelé aussi de suivre les traces de Moïse. Moïse est passé de la connaissance à la vue, même si les deux sont aussi importantes en matière de foi. Moïse a fait usage de ses yeux corporels, mais aussi de ses yeux spirituels, pour avoir à une foi à ferme. Et plus les yeux de Moïse étaient en train de s'ouvrir, plus il accédait à des choses qui soient spirituelles. Et cela a aiguisé sa vue pour ne aspirer qu'à des choses qui soient invisibles et être capable de donner une juste valeur à des choses qu'il voyait. Moïse connaissait le Christ. Mais maintenant, il le voyait. Et cette vue le remplit de courage de pouvoir tenir ferme dans la foi. Telle est cette vie de foi à laquelle nous sommes appelés en tant que disciples, mes bien-aimés. La foi qui refuse la compromission avec le monde. La foi qui choisit l'abaissement en lieu et place de l'élévation. La foi qui estime que les trésors à venir sont plus supérieurs que ce que le monde peut nous offrir comme spectacle et comme illusion. La foi qui quitte ce que le monde nous a habitués à aimer, nous faisant oublier que notre identité est cachée dans le Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père, et que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. La foi qui quitte ce qu'on aime pour nous affectionner à ce qui est invisible. Et pour terminer, mes bien-aimés, nous allons poser un geste ce matin. Je vais demander à Sim de nous projeter le numéro 100 qui est dans Louange à l'Éternel. Le numéro 100. Et je vais vous demander à ce que vous puissiez méditer autour de paroles qui se dégagent de ces chants. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et suis-moi. Et surtout, kutafakari strophe ya tatu. Et donc, dans une attitude de prière, nous allons chanter cela. Et que chacun continue à méditer. Parce que ce chant, c'est pas pour rien que je l'ai choisi. C'est devenu comme l'hymne de Goma Ouest. Parce que nous voulons vivre l'expérience qui est consignée là-bas. Chantons ce chant dans la méditation. La voix du Seigneur m'appelle.